La conversation scientifique par Étienne Klein. Quel monde nous prépare la Silicon Valley ? Rocco et Bainbridge sont deux scientifiques connus pour être les auteurs d'un rapport célèbre destiné aux décideurs politiques et publié en 2002 aux États-Unis. Un rapport qui est très enthousiaste à propos des nanosciences, qu'ils présentent, je cite, comme une révolution pour notre civilisation et qu'ils déclinent en de multiples promesses tout à fait mirobolantes. Les nanosciences permettront une compréhension exhaustive, disent-ils, de la structure et du comportement de la matière depuis l'échelle nanométrique jusqu'au système le plus complexe découvert à ce jour, à savoir le cerveau humain, et elles auront la capacité d'unifier les sciences et les techniques, d'assurer le bien-être matériel et spirituel universel, l'interaction pacifique et mutuellement profitable entre les humains et les machines intelligentes, la disparition complète des obstacles à la communication généralisée, en particulier ceux qui résultent de la diversité des langues, l'accès à des sources d'énergie inépuisables, ou encore la fin des soucis liés à la dégradation de l'environnement. Fin de citation. En bref, ces deux messieurs nous promettent comme étant certains une connaissance vraie et définitive de l'univers, le bonheur à jamais, la paix dans le monde et l'harmonie entre les hommes. Vous pouvez compter, il ne manque rien, c'est donc le salut avec un grand S. Cet argumentaire, qui peut paraître ridicule ou naïf, a joué un rôle très important dans la promotion institutionnelle et symbolique des nanosciences. Mais en les associant directement à un projet métaphysique grandiloquent, et non pas seulement à un projet technologique, Rocco et Bainbridge ont sans doute construit le piège dans lequel les nanosciences se trouvent désormais prises. On met désormais celles-ci sous le feu intense de questions qui les dépassent largement, notamment des questions éthiques. Mais que se passe-t-il du côté de la Silicon Valley ? Quel monde s'y prépare-t-il ? Pour en parler, j'ai invité Martin Legros. Bonjour Martin Legros.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous avez écrit de nombreux articles sur la pensée politique, notamment sur les travaux de Tocqueville et Hannah Arendt. Et vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, dont le numéro d'octobre contient un dossier très intéressant sur la Silicon Valley. Qu'est-ce qui vous a incité à rendre visite, enfin certains membres de votre équipe, à voyager en Californie pour interroger ceux qu'on appelle les papes du transhumanisme ?
Eh bien, par des biais différents et variés de philosophes, de scientifiques, mais aussi d'économistes, on s'est rendu compte de quelque chose qui n'apparaît pas toujours ici en Europe. On a un regard sur la révolution numérique, la révolution des technosciences contemporaines. On reçoit un peu au goutte à goutte des nouveaux produits et des nouveaux services en se disant à chaque coup, de manière un peu éberluée, « Waouh, c'est génial, waouh, qu'est-ce que c'est ?» Or, derrière ces produits qui nous tombent dessus chaque mois, des nouveaux produits, on pense aux lunettes, Google Watch, Google Glass, à la voiture numérique de demain, toute une série de produits, mais aussi de services. Pensez à la manière dont le numérique est en train de révolutionner les services du tourisme ou les services même simplement de nos taxis. Eh bien, derrière ces outils, ces produits et ces services, il y a en réalité une nouvelle alliance qui s'est nouée, dont on n'a pas tout à fait pris la mesure ici en Europe. Une alliance entre trois secteurs, trois domaines d'activité très différents. Le domaine des technosciences, de la recherche technoscientifique, vous savez ça mieux que moi, le domaine, mais aussi le domaine de la finance, de la haute finance. Les grands entrepreneurs du numérique, de Facebook à Google, investissent aujourd'hui massivement dans ce qu'on appelle le projet transhumaniste, l'idée d'une transformation par les nouvelles technologies, en particulier des neurosciences, de nos capacités d'augmenter l'homme, de transformer l'homme, d'en faire un être augmenté grâce à cette nouvelle technologie. Donc, la finance, les grands entrepreneurs du numérique, les recherches technologiques dans le cadre du projet transhumaniste. Et troisième secteur, la révolution libertarienne qui vient en quelque sorte donner son socle éthique et politique à cette alliance. Et c'est un peu la photo générale qu'on a voulu essayer de cerner en allant à la fois voir dans le concret des recherches technologiques qui sont en cours dans la Silicon Valley, mais en allant voir aussi des magnats du numérique. En particulier, on a rencontré Peter Thiel qui est à l'origine en partie de Facebook et plus particulièrement de PayPal, qui est un service de paiement en ligne.
Qui se revendique d'ailleurs comme libertarien.
Qui se revendique explicitement libertarien.
Il veut abolir l'État, ou il pense que l'État est toujours impuissant quand il devient trop gros.
Exactement. Tous ces manières sont un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire ils financent à la fois la recherche en transhumanisme, ils ont fait leur fortune dans la révolution numérique. Et par ailleurs, vous venez de le dire, ils sont des libertariens convaincus. Ah, et le lien entre les trois, si vous voulez, n'est pas seulement un lien historique anecdotique, le fait qu'à la Silicon Valley, il y a à la fois des gens très fortunés qui investissent dans le numérique, dans les recherches transhumanistes et qui ont des convictions politiques déterminées qui sont très ultra-libéraux. Ce n'est pas un lien uniquement anecdotique ou qui tient à quelques personnes. C'est un lien qui a une cohérence philosophique. En réalité, il y a un vrai lien scientifique et philosophique entre cette pensée libertarienne. On va se débarrasser de l'État. On va créer de nouvelles sociétés, un nouveau projet utopique. On n'a plus besoin d'un tiers puisque le réseau numérique en particulier assure entre nous une connectivité généralisée. On peut se débarrasser quasiment de l'État, donc le libertarisme.
Donc de la politique.
Et donc de la politique. Mais on a le réseau qui nous apporte ça. On a l'argent du nouveau capitalisme. Et on a ce projet transhumaniste extraordinaire qui nous dit qu'on peut relancer le progrès en transformant l'homme, en l'augmentant, en le transformant, en l'associant aux nouvelles machines, ces projets d'intelligence artificielle, ces projets d'interface homme-machine, ces projets de santé numérique. Demain, on nous promet qu'avec nos imprimantes 3D, nous pourrons avoir une nouvelle médecine beaucoup plus individualisée grâce à ce nouveau réseau. Donc, si vous voulez, on a voulu essayer de faire le tour un petit peu de cette révolution qui est à la fois une révolution philosophique, scientifique, qui mêle à la fois la science-fiction et des recherches très pointues, très précises et très crédibles, qui mêle un peu tout. On essaie de faire le partage entre ce qui est de l'ordre de l'idéologie, ce qui est de l'ordre de la science, ce qui est de l'ordre d'un nouveau projet, d'une redéfinition du progrès, qui est en cours et dont, en Europe, on a le sentiment qu'on ne reçoit que les miettes sans avoir le projet initial.
Il y a les travaux de recherche, mais aussi un discours, le discours transhumaniste, qui n'est pas forcément directement connecté à ce qu'il est possible de faire. Il y a beaucoup de rêves, d'utopie.
Tout à fait.
Beaucoup de promesses. Est-ce que... vous avez rencontré des gens qui croient vraiment en ce qu'ils disent ou est-ce que c'est simplement une forme de marketing, ce qu'on pourrait appeler le hype en américain, c'est-à-dire un discours hypertrophié dont la vocation est de séduire les investisseurs pour avoir des financements permettant de mener les recherches?
Alors c'est les deux à la fois, c'est-à-dire ce qui nous est apparu quand on est allé dans l'institut, la Singularity Institute, qui est le grand institut transhumaniste rattaché aujourd'hui à Google.
Peut-être rappeler ce qu'on appelle la singularité.
Oui, en effet. Oui, donc le projet de la singularité, c'est l'idée, ce nom est un peu étrange, vous connaisserez, pourrez définir davantage que moi l'origine, l'idée de la singularité, je crois qu'elle vient de l'astrophysique. Les trous noirs sont censés être des lieux...
Oui, le Big Bang, c'est une singularité. Singularité primordiale, c'est-à-dire une condition très spéciale où il y a un basculement, il y a une densité infinie, une température infinie qui va donner l'univers structuré tel qu'on le connaît. Donc c'est l'idée de rupture, en fait.
L'idée de rupture. Et donc les transhumanistes d'aujourd'hui invoquent la singularité comme ce moment à venir. Alors certains disent 2020, d'autres 2030, d'autres 2050. Donc cet événement qui va suspendre les lois de l'histoire qui avait cours jusqu'ici pour faire advenir un homme nouveau. Et cet événement tiendra à quoi? Au moment précis où nous allons créer la première machine qui sera capable de produire une intelligence artificielle supérieure à l'homme et qui, à partir de là, va, elle, prendre en charge la création de nouvelles machines. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de nouvelle prothèse humaine qui sera un mélange à la fois de nos cerveaux, puisqu'on va transplanter nos cerveaux dans ces machines, et ces machines vont créer par elles-mêmes des nouveaux produits.
Et donc on va créer une sorte de fusion entre l'homme et la technique.
Finalement. Entre l'homme et la technique. Et ce mythe de la singularité, qui est un peu une idée, un peu les scientifiques, les vrais scientifiques regardent ça avec un petit peu beaucoup de scepticisme, mais c'est un mythe qui est porteur, c'est un mythe qui est fécond. Aujourd'hui, dans des instituts comme l'Institut de la Singularité, qui est dans la Silicon Valley, qui est à la fois un institut de recherche scientifique, mais aussi un institut qui est rattaché à Google et qui donne à Google toute une série de nouveaux logiciels, de nouveaux produits. Donc, c'est comme tout le capitalisme a toujours été, depuis la révolution industrielle jusqu'à la révolution d'aujourd'hui, des neurosciences, des nouvelles technologies, a toujours été à rattacher aux sciences. Et donc ces instituts sont tous plus ou moins transhumanistes, ont plus ou moins tous le projet un peu délirant de transformer l'homme, de faire accoucher avec les nouvelles machines d'une nouvelle humanité. Donc ça nous apparaît à nous, Européens, un peu étrange. Reste que ce projet apparaît, même aux chercheurs les plus sceptiques à son endroit, comme un projet fécond, en ce sens qu'il est une sorte d'idée régulatrice qui permet de capter toute une série de financements pour avoir des recherches qui concrètement sont parfois des recherches tout à fait limitées et précises sur la manière dont on peut déchiffrer ce qu'il se passe dans le cerveau quand nous percevons des images, quand nous parlons les uns avec les autres, quand nous communiquons. Il y a des recherches très très circonscrites et très précises, mais qui, grâce à ce projet, à cette idée régulatrice,
en fait, elles sont insérées dans une espèce de halo symbolique qui leur donne un sens, une direction, un but. Alors cette singularité, certains l'appellent le small bang, et justement il s'agit de jouer avec
Big Bang,
c'est-à-dire c'est la réplique technologique du Big Bang. Le Big Bang, c'est la convergence des forces d'une certaine façon, et là il y a convergence des technologies, celle de l'informatique, celle des nanotechnologies, celle de la biologie, celle des sciences cognitives, avec l'idée que à toute petite échelle, celle du nanomètre, la matière n'est pas individuée, elle a des propriétés qui ne permettent pas de savoir à cette échelle-là si c'est de la matière vivante, de la matière inerte ou non. Et c'est à des échelles plus grandes que les spécificités apparaissent.
Oui.
Et donc il y a l'idée qu'on va, on va faire converger à cette échelle-là ce qui relève de l'humain et ce qui relève de l'inerte.
Oui. Moi, j'ai le sentiment, d'après les chercheurs qu'on a interrogés dans la Silicon Valley, que il y a un discours un peu métaphysique et de science-fiction qui inscrit, je dirais, les recherches sur le cerveau, parce que c'est les neurosciences qui sont très à la pointe, comme si la révolution des neurosciences allait être un événement à l'égal du Big Bang dont vous parliez un instant, ou de l'avènement du premier homme, que ça allait être l'événement absolu créateur d'une nouvelle histoire. Ça, à mon avis, ça relève un petit peu de la mythologie. Par contre, ce qui relève peut-être moins de la mythologie, c'est la manière dont aujourd'hui, dans je dirais, le paradigme des neurosciences, davantage que celui de la physique du Big Bang ou de la physique fondamentale, le paradigme des neurosciences, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, les chercheurs ont la volonté d'essayer de soulever, de décoder le cerveau. Et cette nouvelle recherche qui est quand même passionnante, c'est-à-dire on commence à savoir aujourd'hui comment savoir cartographier le cerveau, à le déchiffrer, à voir quand nous communiquons quelles zones du cerveau s'allument, s'éteignent, quels sont les circuits par lesquels le langage, la communication passe. Et bien cette révolution scientifique qui est passionnante, comme toute révolution scientifique, elle n'est pas totalement indépendante d'une révolution plus vaste que nous vivons, qui est une révolution à la fois du néolibéralisme et une révolution de la révolution du numérique, qui est l'idée du réseau. Eh bien, à mon avis, tout ça, si vous voulez, si les sciences sont aujourd'hui, se sont focalisées sur les neurosciences, c'est que les neurosciences ont aussi une conception un peu en réseau de l'homme. Il s'agit de cartographier le réseau interne de nos connexions. Et donc, ça se met à circuler à partir de cette révolution scientifique qui est en cours. Il y a, je dirais, des échappées au dehors, et on se met à s'imaginer que la société pourrait être à l'égal d'un cerveau, que nous pourrions communiquer les uns et les autres en branchant une clé USB sur notre cerveau qui passerait par nos ordinateurs, et nous n'aurions plus besoin de passer par la médiation d'un langage articulé et symbolique pour entretenir une communication généralisée qui, en mettant en réseau toutes ces intelligences, va créer une intelligence supérieure. Il me semble que ce schéma-là, qui est à la fois un schéma délirant, mais en même temps un schéma qui donne son sens, qui donne son l'horizon de recherche très concrète. Les recherches aujourd'hui sur les interfaces cerveau-machine, elles donnent des choses assez époustouflantes. Si vous allez regarder sur YouTube ou ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, on peut, en installant une souris en Amérique du Sud et une souris à New York, les faire communiquer de cerveau à cerveau sur les informations qu'elles trouvent dans la situation dans laquelle on les place. À partir de cette expérience un petit peu toute limitée, eh bien aujourd'hui on se dit « Ah, et si l'homme pouvait se mettre en réseau, communiquer sans en passer par un langage symbolique ?» Voilà, me semble-t-il, les passages qui sont en train de se nouer, et après tout, je ne suis pas sûr qu'il faille absolument délimiter ce qui est vraiment scientifique de ce qui appartient au mythe. La science avance aussi en fonction de certains mythes. Et ce que nous appelle, excusez-moi d'être un petit peu long, ce que nous rappelle le nouveau rêve, la redéfinition actuelle du progrès par les Américains, c'est que toutes les grandes avancées scientifiques, elles ont été conçues à partir d'un horizon, d'une idée régulatrice. Souvenons-nous de Descartes, quand il disait « nous allons allonger indéfiniment la durée de vie grâce à la science et à la médecine ».
Parce que le corps est une machine.
Parce que le corps est une machine, déjà l'idée était là. Ou souvenons-nous des utopistes du 19e siècle qui avaient, avec la naissance de l'électricité, l'idée que la fée électricité allait créer une nouvelle communication entre les
d'ailleurs dans votre article, Martin Legros, vous citez un texte de Victor Hugo, préface philosophique qui devait servir d'introduction aux Misérables, et qui résume le credo progressiste de l'époque, qui ressemble à ce que vous dites des recherches actuellement menées sur le cerveau. Il dit « L'espace est un océan, les univers sont des îles, mais il faut des communications entre ces îles. Ces communications se font par les âmes. La mort fait des envois d'esprit d'un monde à l'autre. »
Oui, d'abord, cette préface, il faut le dire, est un texte somptueux de Hugo, qui est une préface aux Misérables, un roman tout de même, et il inscrit les Misérables, donc ce roman sur la condition misérable que la révolution industrielle crée, il l'inscrit dans, lui, un projet d'avenir, de dépassement justement de la misère grâce à la science et grâce à une religion de la science et du progrès. Et ce texte qui finalement, qu'il n'a pas publié finalement, est un très long texte assez bizarre où il mêle aussi des références à l'électricité et des références à l'idée que nous allons pouvoir établir une communication d'âme à âme. Et ça m'a évoqué tout de suite les projets un peu délirants. Aujourd'hui, vous savez, les transhumanistes, ils sont à la fois dans les laboratoires de recherche en neurosciences, mais ils sont aussi en train de financer des îles sur les océans, dans des lieux où il n'y a pas de législation étatique et où ils rêvent de créer une nouvelle société avec ces nouvelles technologies, débarrassées de toutes les régulations. Et pas seulement des régulations économiques, des régulations politiques, des régulations éthiques qui aujourd'hui limitent ce que l'on peut faire avec la condition humaine. Leur projet est de créer un homme nouveau, c'est-à-dire un homme qui va se transformer lui-même en transformant sa propre condition.
France Culture, la conversation scientifique.
Étienne Klein.
Alors le problème, c'est que les techniques pour réparer l'humain sont à peu près les mêmes que celles qui sont nécessaires pour l'augmenter. Et donc les technologies dont on parle là peuvent être utilisées pour faire entendre les sourds, pour faire voir les aveugles. Mm-hmm. Il s'agit de réparer.
Tout à fait.
Et le problème, c'est que les techniques qui permettent de réparer les corps sont aussi celles, peu ou prou, qui permettent de les augmenter, mm-hmm. d'augmenter leur performance.
Mm-hmm. Ouais.
Et donc la question qui est posée, finalement, c'est celle du progrès. Et avant de l'aborder, je voulais vous interroger sur Hannah Arendt, puisque vous en êtes un spécialiste. Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, fait remarquer que les technologies, les techniques modifient les conditions de vie humaines. Mm-hmm. La façon de communiquer, de voyager, de travailler. Et peut-être qu'à force de modifier les conditions de vie humaines, les technologies vont changer la condition humaine. C'est-à-dire le rapport à la mort, le rapport à la vie, le rapport à autrui. Est-ce que vous pensez qu'on a déjà franchi ce stade, c'est-à-dire qu'on est en train de changer la condition humaine? Pas simplement dans les projets futuristes qu'on vient d'évoquer, mais dans la réalité de la médecine aujourd'hui, par exemple.
Les transhumanistes vous répondent très allègrement, mais n'ayez pas peur, ça a déjà commencé. Après tout, les vaccins, après tout... la médecine,
le pacemaker,
qui aujourd'hui les pacemakers sont reliés à Internet et donc quand même le cœur de notre vie est connecté, si je puis dire.
Vous racontez d'ailleurs que Dick Cheney, qui est un pacemaker, quand il a appris qu'il était connecté, a été pris de panique.
Voilà, ouais. Et certains s'en amusent d'ailleurs, auraient souhaité que ce pacemaker tombe en panne. Mais plus sérieusement, oui, la question que vous posez est fondamentale, c'est-à-dire que ce qui est très étonnant, c'est que tous les chercheurs que nous avons rencontrés à la Silicon Valley, dans tous ces centres de recherche, sont non seulement des scientifiques qui font des recherches en technologie, en sciences appliquées, je dirais, mais ils ont une vision très précise du projet d'ensemble dans lequel ils inscrivent leurs recherches, mais ils ont aussi une vision éthique et politique de ce projet. Et sans aucun problème, ils envisagent le fait, quand on leur objecte, mais vous savez, si, en admettant par exemple que l'on puisse augmenter la condition humaine, augmenter la durée de vie de 20, de 30, de 40 ans. Ça va tout de même poser des questions assez difficiles, puisque nous allons avoir, dans certaines régions du monde, des humanités à 150 ans, et dans d'autres, des humanités à 60, 70 ans pendant longtemps.
Ils disent que c'est déjà le cas.
Ils disent que c'est déjà le cas, qu'il y a ces inégalités. Et ce n'est pas pour rien là où ils sont tous libertariens, ça ne leur pose aucun problème qu'il y ait non seulement des inégalités sociales, mais que ces inégalités dont vous parlez à l'instant, ces inégalités de conditions, nous allons avoir des hommes de conditions peut-être différentes. C'est vrai qu'une humanité à 150 ans n'a sans doute pas la même expérience de l'humanité qu'une humanité à 80. Il suffit de penser le rapport aux générations. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un grand-père de 150 ou 160 ans? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est ça qu'ils envisagent.
C'est un arrière-arrière-grand-père, d'ailleurs.
Exactement. Qu'est-ce que c'est, plus métaphysique et plus vertigineux encore, l'idée qui est l'idée des transhumanistes, qu'on va pouvoir, en attendant que cette révolution, que nos corps puissent suivre nos projets scientifiques, leur idée, c'est qu'on va télécharger nos esprits comme des logiciels informatiques qu'on va les télécharger sur un grand ordinateur en attendant d'avoir le corps adéquat et que nous pourrons nous transplanter après dans les nouveaux corps plus durables. Qu'est-ce que c'est que cette expérience vertigineuse de séparation? Descartes aurait écrit des choses assez extraordinaires là-dessus, c'est-à-dire d'un esprit qui, pendant 30 ou 40 ans, est mis en sommeil ou est mis en réseau et qui retrouve une condition corporelle avec d'autres contemporains plus jeunes que lui. Expérience vertigineuse. Eh bien, ces expériences-là, ils ne l'abordent pas du tout de manière effrayée ou inquiète. Ils l'abordent, ils sont heureux, ils se disent, ben voilà, nous allons vivre des nouvelles choses et il est temps de forger aujourd'hui les nouvelles éthiques du futur qui vont permettre de réguler ou de penser ces humanités, ces conditions humaines différenciées. Donc, ils l'abordent, eux, de manière assez frontale. Je ne suis pas sûr que Hannah Arendt, que vous mentionnez, n'y aurait pas vu une menace terrible sur le fait que il faut avoir une même condition. Les droits de l'homme, par exemple, sont fondés sur l'idée qu'il y a une humanité qui vit la même condition et qui est capable, qui forge un droit, une éthique, une morale sur la base de cette condition commune. S'il n'y a plus de condition commune, est-ce qu'il y a une éthique commune? Ce n'est pas sûr.
Est-ce qu'il y a de l'empathie? Est-ce qu'il y a de l'empathie? Ouais. Alors, vous disiez tout à l'heure que le discours transhumaniste essaie d'offrir à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption, mais on voit que là, il y a quelque chose qui est en rupture avec la façon traditionnelle de penser le progrès. Si on lit les pères fondateurs, les philosophes des Lumières, le progrès doit bénéficier au genre humain, pas à une partie du genre humain. Et si on a des conditions de vie au sein de l'humanité qui sont si différentes que les liens d'empathie en viennent à disparaître, est-ce que ça n'équivaut pas à une séparation, une fragmentation de l'idée même d'humanité?
À nouveau, les réponses que je préfère faire, les réponses que qui existent de l'autre côté de l'Atlantique et qui sont formulées à ces questions fondamentales, la manière dont aujourd'hui les transhumanistes répondent à cela, ils y répondent de manière, dans le langage des libertariens, c'est l'idée que aujourd'hui, si vous voulez, on ne maîtrise pas totalement les nouvelles technologies. Quand on pourra transplanter nos cerveaux, il n'est pas sûr que tout le monde va s'y risquer. Et donc vont s'y risquer ceux, un, qui ont l'argent pour le faire et qui ont l'audace de le faire. Et leur idée, un petit peu, je dirais, très libérale, est de dire, eh bien, il y a une pointe avancée de l'humanité qui va se risquer pour tout le monde et donc qui va prendre un risque, mais aussi tirer les avantages au début, une sorte d'élite. Et puis progressivement, comme dans tout système capitaliste, les masses vont bénéficier de ce que les avant-gardes, plus fortunés qu'elles, ont essayé, se sont risqués à faire. Et donc, il y a comme une justice immanente, selon de leur point de vue, à ce progrès en marche qui va permettre à une élite occidentale et au sein de l'Occident très très limité, ceux qui auront l'argent pour investir ou bénéficier de ces nouvelles technologies. Mais ils vont aussi avoir des risques, c'est-à-dire les premiers vont peut-être pas vivre aussi longtemps qu'ils l'espéraient. Et puis progressivement...
Oui, ils vont être vieux très jeunes et ça va durer longtemps.
Voilà. Et puis progressivement, eh bien, ça va se répandre comme tous les nouveaux produits du capitalisme. Donc c'est un raisonnement mi-scientifique, mi-économique de dire qu'il y a une justice immanente. Le marché de l'avenir va organiser une sorte de condition exceptionnelle qui va se répandre progressivement à toute l'humanité.
Martin Legros, on a l'impression à lire leur discours qu'ils éprouvent une forme de mépris pour la condition humaine telle qu'elle est, pour l'homo sapiens que nous connaissons. Il y a comme l'idée d'une fatigue d'être soi. Le XXe siècle aurait montré que l'homme humaniste classique, qui pense l'humanité comme une, est un être qu'il faut dépasser.
Oui, oui.
Parce qu'il y a des conceptions qui sont... incompatible avec les possibilités que la technique d'aujourd'hui nous offre.
Oui, moi je ferai deux réponses distinctes. C'est-à-dire je ferai d'abord, je crois qu'il est temps que nous mesurions d'abord, avant de regarder tout cela avec effroi, d'abord de mesurer qu'il y a une cohérence dans ce projet. Que ce projet transhumaniste n'est pas une folie de quelques esprits. C'est un projet qui est en marche, qui a de l'argent et qui a une cohérence intellectuelle et philosophique. Et prenons la mesure de la cohérence de l'ensemble. Une fois que je dirais, la photo d'ensemble est prise, il est vrai qu'il va y avoir une vraie réflexion, une vraie délibération sur la manière dont on peut encadrer ou pas. Mais étant donné que les transhumanistes américains en particulier, c'est pas pour rien qu'ils souhaitent faire sauter toutes les régulations étatiques, parce que derrière les régulations étatiques de la science et du progrès, il y a les régulations morales et éthiques. Et donc, en effet, il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre. L'homme, mais après tout, c'est l'aventure qui est inhérente, je dirais, à l'histoire du progrès moderne. Depuis que le progrès moderne s'est formulé avec Descartes, il y a cette idée que l'homme va se faire. Alors, va-t-il devenir... qu'est-ce que ça veut dire, se faire ? Il y a toujours eu cette discussion philosophique passionnante de savoir si l'homme se fait, c'est-à-dire qu'il n'est rien, définition de la Mirandole ou des humanistes classiques. L'homme n'est en rien, il se fait, c'est-à-dire il a une histoire, il s'invente, il n'est pas le même aujourd'hui à la différence des animaux qu'il y a 2000 ans ou 3000 ans. Donc se faire, c'est n'être rien et s'inventer. Une version de l'humanisme que reprennent les transhumanistes d'aujourd'hui. Et il y a une autre version, celle d'auteurs comme Hannah Arendt ou d'autres dont vous parliez, qui est l'idée qu'il y a une condition humaine, et que donc se faire, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire simplement se rapporter à cette condition, qu'il y a certains éléments indépassables. La mort en est une, il y a quelque chose chez les transhumanistes d'une naïveté absolue à croire que nous allons pouvoir solutionner la mort. Peter Thiel, que nous avons interrogé, est un transhumaniste et dit de manière très allègrement, la mort est un problème technique.
Oui, alors il y a justement un universitaire biélorusse, je crois, qui s'appelle Evgeny Morozov, qui dénonce ce discours-là comme étant du solutionnisme, c'est-à-dire de prétendre que les technologies, pour peu qu'on sache les améliorer comme il faut, vont être la solution à tous nos problèmes.
Exactement.
Parmi lesquels se trouve également la mort.
Il y a cette idée, mais je ne dirais pas qu'il n'est pas d'invention américaine, une nouvelle fois, qui est, je crois, inhérente à notre idée... à notre invention du progrès et de l'idée du progrès. Il y a cette idée que l'homme peut entièrement se rapporter aux questions, je dirais, qui étaient les grandes questions de la métaphysique, que ce soit la question de la vie ou de la mort, mais la question de l'au-delà, mais la question comme à des problèmes techniques. Et il est vrai qu'elle trouve dans le pragmatisme américain, les Américains ont toujours eu à la fois un versant religieux et un versant pragmatiste, et c'est l'alliance des deux qui est assez étonnante, c'est-à-dire qu'une nouvelle religion du progrès technologique, comme si il n'y avait toute question n'était qu'un problème technique à laquelle il y a une solution technique. Et on retrouve ce langage-là dans le programme philosophique de la Silicon Valley. Il va falloir engager une discussion philosophique avec ces nouveaux apôtres du progrès, parce qu'en effet, ils nous réservent des surprises et ils nous réservent une vision de l'homme qui, avec lequel nous-mêmes, ils nous renvoient en miroir nos anciennes illusions. Nous avons le sentiment, nous, d'être une étape loin, d'avoir essayé de transformer l'homme. L'idée d'un homme nouveau nous apparaît aujourd'hui comme une folie totalitaire, sans doute. Non, on ne peut pas faire l'homme. Il y a des éléments de la condition humaine qui sont indépassables. L'idée de la vie et de la mort, l'idée d'une expérience reçue, l'idée d'une passivité, toute l'idée que notre condition, nous la découvrons au gré d'une expérience qui n'est pas entièrement solutionnable. Voilà toutes des idées. Merleau-Ponty le disait très bien à la sortie de la guerre, au moment où, justement, on était en train de mesurer les désastres d'un certain esprit technologique. Il disait le rêve a été de réduire l'homme à l'espèce de machine qu'il prétendait être. C'est-à-dire les sciences et les techniques, c'est à la fois leur audace et leurs limites, conçoivent tout comme des techniques, comme des machines. Et la philosophie consiste à prendre la mesure de l'écart qu'il y a entre nos projets technologiques et notre expérience. Il va falloir, à mon avis, se coltiner un vrai débat philosophique, parce que cette idée que l'homme est une machine qui peut se gouverner et se transformer au gré de tous les problèmes qui se posent, est en train de...
Il y a une petite différence toutefois dans le rêve, la religion du progrès dont vous parlez. Mmh. Elle s'est plutôt incarnée et déclinée chez nous sous la forme d'un scientisme plus ou moins revendicateur. Alors que là-bas, c'est plutôt un technologisme. Mmh. Il ne parle pas de découverte fondamentale, il ne parle même pas de recherche fondamentale. Il ne s'agit pas d'accroître les connaissances, il s'agit de développer le pouvoir des machines.
Exactement.
Et donc c'est la technologie qui est idéalisée et rêvée plutôt que la science.
Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, dans le capitalisme contemporain, il est de plus en plus difficile, c'est ce qui nous est apparu en tout cas, de séparer certaines recherches en tout cas. Peut-être qu'en physique fondamentale, c'est différent, mais je ne suis pas sûr que la physique fondamentale ne dépende pas étroitement aujourd'hui de fonds privés qui ont des intérêts à financer ces recherches. Eh bien, cette imbrication très étroite entre la technologie, la science et les capitaux derrière me semble difficile à dissocier. Et je crois qu'on peut... On vit à un âge où... toutes ces choses communiquent les unes avec les autres. Il me semble que si les neurosciences en particulier ont acquis une telle autorité, une telle capacité de découverte, alors que pour de nombreux, elles n'ont pas encore découvert beaucoup de choses. On n'a pas encore, contrairement à l'idéologie, on n'a pas encore sauté les codes du cerveau. Finalement, on sait comment est-ce que quand on perçoit une image, plus ou moins par quel canal ça passe. C'est quand même pas énorme. Si pourtant les neurosciences font l'objet d'un tel investissement, c'est à mon avis qu'elles correspondent à cette révolution de concevoir la société et l'humanité comme un énorme réseau et sans tiers, sans plus de médiation, que ce soit la médiation de l'État ou la médiation du langage. Il me semble que ces éléments sont en train de cristalliser dans un nouveau paradigme qui est à la fois un paradigme économique, un paradigme scientifique, un paradigme technologique, et que c'est ça dont il faut prendre la mesure de la manière dont toutes ces choses sont imbriquées les unes dans les autres pour ensuite certainement en opérer une forme de déconstruction, une déconstruction à la fois pas uniquement éthique et politique, mais une déconstruction scientifique. Et là, à mon avis, c'est aux scientifiques de faire. Certains philosophes commencent tout de même à dire, quand on nous dit que la machine a joué aux échecs, a fait la preuve que l'intelligence artificielle est possible, de nombreux philosophes disent, pas du tout, elle n'a rien démontré du tout, la machine ne fait que faire ce qu'on lui dit de faire, point barre.
Mais elle oblige à interroger ce qu'on appelle l'intelligence.
Exactement.
I'm the operator with my pocket calculator.
Martin Le Gros, je voulais vous demander si, à votre avis, ces recherches qui bénéficient d'investissements colossaux ne sont pas souterrainement conduites par le souci d'échapper à la mort. Je veux dire par là que beaucoup de ces travaux concernent la santé, la médication personnalisée. J'ai lu dans votre article que l'aspirine, par exemple, n'est efficace que sur 2 Américains sur 3. Selon des critères qu'on n'a d'ailleurs pas identifiés. Et du coup, on pourrait imaginer personnaliser les traitements pour offrir à chacun le médicament spécifique qui, pour lui, sera efficace.
Alors, c'est en effet la grande... Une des choses qu'on a découvert dans cette enquête, c'est que, en effet, il y a tout le domaine de l'informatique, du cerveau, des neurosciences, mais qu'aujourd'hui, le premier champ d'investissement d'entreprises comme Google, comme Apple, c'est la santé. Santé, premier souci aujourd'hui, après tout, nos sociétés dépendent, c'est un des budgets les plus fondamentaux après l'éducation. Eh bien, l'éducation et la santé, l'éducation aussi va devenir l'objet de recherche, il suffit de penser aux universités numériques, mais c'est un autre sujet. La santé, donc, est le premier objet de notre investissement. Nous, après tout, nous sommes des modernes qui n'avons plus trop confiance dans la vie dans l'au-delà et dont le projet est de durer le plus longtemps, de profiter de cette vie. On n'a qu'une vie. Et donc, ils l'ont très bien compris et ils ont très bien compris aussi que ce nouvel outil qui est le numérique permet de proposer aux individus une médecine augmentée, si je puis dire, mais comme vous le disiez à l'instant, une médecine adaptée à chacun des individus. On va, grâce aux outils informatiques, récolter que ce soit les montres connectées, que ce soit les lunettes connectées, que ce soit vos propres données biométriques, on va connecter des informations considérables sur la santé des individus, le battement de leur cœur, sur leur température. Ces informations ne pourront pas être traitées par des médecins. Elles seront tellement énormes, ce seront des datas médicales gigantesques. Elles devront donc être traitées par des logiciels qui pourront répondre très précisément à la question que vous venez de poser, qui est aujourd'hui une réponse qui n'est pas théorique, qui est certains individus, l'aspirine est efficace sur certains individus. Pourquoi on ne le sait pas tout à fait? Sur d'autres, elles ne sont pas efficaces. Eh bien, on pourra non seulement recommander à ces individus-là des médications individuées sur la base des informations que les logiciels auront recueillies tout au long de leur vie, donc leur proposer des médications individuées, mais surtout, le plus étonnant pour nous, les imprimantes en 3D permettront, nous disent ces technologues, d'imprimer bientôt chez vous vos médications individuées. Et donc vous aurez comme ça ce service, il y a cette idée d'un service du réseau, plus d'État, plus même du tiers médical, le logiciel va proposer une médecine supérieure. Alors, il y a quelque chose de totalement fantasmatique, mais en même temps, on se demande si l'arrivée de la révolution numérique dans la santé va quand même changer énormément de choses. Elle a mis par terre, elle est en train de mettre par terre la presse et l'édition depuis longtemps. Elle est en train de s'emparer de l'éducation et elle est en train... la prochaine révolution, c'est la prise en charge de la santé, fondée métaphysiquement, de nouveau, sur cette idée transhumaniste que l'homme peut se faire, peut augmenter sa condition et que sa durée de vie, qui n'a cessé d'augmenter grâce au progrès de la médecine, va continuer d'augmenter. Et donc tout se tient, si vous voulez, à la fois l'idée libertarienne que les individus font réseau grâce au réseau, font connexion grâce au réseau, cette idée que le financement, on n'a plus besoin d'un tiers qui finance et qui... non, c'est purement une sorte de distribution purement libérale des individus entre eux, et cette idée, le socle métaphysique, que l'homme peut changer de condition, augmenter sa durée de vie, et que c'est son destin quasi métaphysique.
Mais voilà. Martin Legros, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe dans le fait de dire, voilà, il y aura tellement de données à recueillir et à gérer que seul un logiciel pourra le faire. Ouais. Les humains en seront incapables, mais ces logiciels, il faudra les gérer. Et en cas de panne, par exemple, ou en cas de bug, c'est l'effondrement. Est-ce que c'est envisagé par les transhumanistes comme possibilité, ou est-ce qu'ils ont une confiance tellement sûre dans la technologie qu'ils n'imaginent même pas que les logiciels puissent être autrement qu'intelligents et capables de réagir aux défauts qu'eux-mêmes vont engendrer?
C'est l'idée de la singularité dont on est parti, c'est l'idée que les machines ne seront plus à l'avenir des simples exécutantes des programmes que nous avons conçus pour elles, ce qu'elles sont à l'heure actuelle encore, mais que les machines seront capables de s'auto-gouverner, de s'auto-gérer et de gérer leurs propres failles. C'est sans doute une illusion, mais leur réponse est celle-là. Et leur réponse est de dire que les ordinateurs géreront les failles avec beaucoup plus d'impartialité que les humains, qui sont toujours tiraillés par des conceptions, par des désirs, par des aspirations, par des fantasmes. Non, les machines feront ça en toute impartialité, en fonction de du programme qu'on aura établi ou qu'elles auront établi sur base de principes. Et que donc, il n'y aura plus ce moment du jugement, qui est le moment humain dans la décision. Non, donc ils ont une réponse, je dirais, conquérante sur toutes ces questions.
Parce que si on prend par exemple le discours de Condorcet, un des pères fondateurs de l'idée de progrès quand même, qui dit qu'il y a une sorte d'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès, le progrès scientifique, qui engendre de façon presque mécanique un progrès technologique, qui lui-même engendre un progrès moral, qui lui-même va engendrer un progrès politique, etc. Est-ce que là encore, il n'y a pas une sorte de rupture, au sens où les transhumanistes n'imaginent pas que l'homme puisse s'améliorer moralement? Puisque c'est la technique qui va en fait tout gérer, elle sera, vous l'avez dit, avec une sorte d'éthique intégrée, de sorte que l'homme sera, le post-humain en tout cas, sera dispensé de l'obligation de juger. Et peut-être aussi d'être jugé.
Oui, c'est assez abyssal. En même temps, même dans ce registre-là, nous, l'éthique nous paraît dissociée du technique. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a des possibilités techniques et que l'éthique est le moment du jugement où nous décidons sur le base de principes qui ne sont pas fournis par l'éthique ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Eux ont l'idée qu'ils appellent ça l'enhancement, l'amélioration,
l'augmentation
éthique. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des programmes de recherche dans les plus grandes universités sur est-ce que nous allons, la neuroscience va être capable d'augmenter nos capacités d'empathie, par exemple. Pensez qu'il est vrai qu'une des limites de notre condition, c'est que je suis plus empathique à votre égard qu'à l'égard de un animateur de France Inter ou un scientifique que je n'ai jamais rencontré, parce que je vous ai vu, etc. Eh bien, c'est une limite. Après tout, tout homme vaut un autre. Donc, pourquoi ne pourrait-on pas imaginer d'augmenter l'humain pour qu'il ne soit plus limité à ses partialités qui font que nous sommes plus sensibles à ceux qui nous sont proches qu'aux lointains, sans justification morale absolue. Eh bien, les chercheurs aujourd'hui en augmentation éthique travaillent sur, faut-il ou pas, si nous avions la capacité de transformer nos cerveaux de sorte à ce que nous n'ayons plus ces limitations qui tiennent à notre condition, faudrait-il le faire ? Eh bien, voilà des décisions que nous allons devoir, des décisions qui sont des décisions quand même métaphysiques, si je puis dire. Nous allons peut-être changer notre logiciel éthique, notre capacité, même notre empathie éthique, eh bien voilà des décisions que nous allons devoir trancher dans un sens ou dans un autre.
Alors, Martin Leroux, vous avez bien montré là que tout ce discours, en fait, n'est pas incohérent. En quelque sorte, il y a réponse à tout. Toutes les objections qu'on peut lui adresser trouvent une réponse.
C'est en ce sens que c'est
plus ou moins
sorte
sophistique, mais qui ressemble à des discours que nous avons nous-mêmes tenus dans le passé. Et la question est de savoir pourquoi, en Europe, on fait de la résistance. Pourquoi ce discours provoque des réactions hostiles? Pourquoi nous le jugeons naïf, utopique, ridicule, je l'ai dit plus parfois? Qu'est-ce qui provoque cette résistance? Vous avez dit que c'est le XXe siècle qui nous a déniaisé à propos de l'idée de progrès, alors que les Américains, eux, partent, reprennent le flambeau, en quelque sorte. Est-ce que c'est une explication suffisante? Parce que le XXe siècle, ils l'ont connu aussi, d'une certaine façon. Peut-être à distance, par rapport aux barbaries dont on a parlé, mais ils y ont participé aussi, ils n'en sont pas ignorants.
Non, c'est certain. Il y a certainement une explication religieuse ou spirituelle, c'est-à-dire que, de fait, les Européens, les scientifiques européens en particulier, sont, je dirais, grosso modo agnostiques. C'est-à-dire qu'ils ont, définitivement dissocié la question de la foi, de leur foi, de la question de leur recherche, de leur vocation. Il me semble qu'aux États-Unis, il y a une religiosité, on le sait, de la politique, mais il y a aussi une religiosité encore de la recherche, du progrès, de la science. Cette idée, finalement, qui n'est pas tout à fait absurde, que nous avons en tout cas partagé longtemps, cette idée que dans la découverte, dans une très grande découverte scientifique, nous sommes un petit peu, nous jouons un petit peu à Dieu. C'est-à-dire, nous, il y a quelque chose, nous perçons le secret. Eh bien, ils sont totalement traversés, animés par cet esprit de l'idée que la science sait percer le secret métaphysique des choses. Et que
nous, en Europe, nous serions freinés par notre laïcité.
Et que nous, en quelque sorte, nous regardons avec beaucoup plus de prudence et beaucoup plus de distance, ça me semble-t-il. Nous ne voyons plus dans la science. Nous avons appris à dissocier la science et la métaphysique. Et nous ne voyons plus, c'est peut-être un peu triste d'ailleurs, nous ne voyons plus dans les grandes découvertes, que ce soit en physique, vous le savez mieux que moi, en physique fondamentale ou en neurosciences, nous y voyons, oui, des avancées, mais pas
des innovations,
mais pas quelque chose qui ultimement nous rapproche du Graal qui est la connaissance divine des choses. Voilà peut-être une explication qui est moins historique, qui est plus métaphysique, mais je crois qu'il y a quelque chose de cela aux États-Unis qui fait que le transhumanisme est comme l'idée régulatrice de nombreuses recherches aujourd'hui scientifiques.
Merci Martin Legros d'avoir lancé le débat qui sans doute va durer encore très longtemps. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Claire Levasseur et à la réalisation François Connac. Music. Non-stop. Music.
Music non-stop. Music non-stop. Non-stop.
Ensuite, la boîte à lettres de Cécile Gilbert, puis vous retrouverez Continent Musique par Mathieu Conquet.